France Musique.
Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous parlons nature, musique et quelques autres choses encore. Quand l'environnement se rebiffe, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Une catastrophe universelle, par exemple, un déluge. Capella Mediterranea, Leonardo Garcia Alarcón, et ici le contre-ténor Fabian Schoffrin qui chantait la mort, rien moins une tarentelle, la tarentelle de la mort au moment du déluge, parce que c'est bien de cela dont il s'agit dans ce Diluvio Universal et de Michelangelo Falvetti, pièce présentée à Messine pour la première fois en 1682 et dont il y a 10 ans on savait à peu près rien. Leonardo Garcia Alarcón nous l'a découvert littéralement à l'occasion de ce disque et de quelques concerts absolument mémorables. Alors qu'est-ce que c'est que cette œuvre mystérieuse? Pas un opéra, c'est plutôt un oratorio, mais un oratorio pas sérieux. Enfin, il y a du tragique et il y a du comique dedans aussi, beaucoup, avec des personnages très pittoresques. Noé, Dieu lui-même qui est là, la justice divine, et puis les éléments comme l'eau, le feu, la terre, où on vient de l'entendre à l'instant, la mort qui se réjouit de pouvoir moissonner tellement d'humains, d'animaux à l'occasion de ce déluge. Ce qu'il nous a raconté, c'est l'histoire biblique, tout simplement. On est au ciel, tout d'abord. Les hommes sont extraordinairement injustes. Juste donc Dieu choisit d'en finir avec eux. Le déluge lui-même, on va l'écouter dans un instant. Et puis à la fin, on se retrouve dans l'arche avec Noé et sa femme, Rad, heureux d'avoir échappé à ce désastre et glorifiant Dieu quand même, qui fait toujours tout pour le mieux, comme nous le savons. On va écouter à l'instant Dieu lui-même qui condamne les hommes et puis le déluge qui suit avec l'affolement de l'humanité.
Fuga chi può l'inevitabil sorte. Arrivata mia man, piove flagelli, stragi, ruine, ed esterminio e morte. Arrivata mia man, piove flagelli, stragi, ruine, ed esterminio e morte. sembrate miei ciechi. Pioveta di rubi e pioggia abbonda, tanto che non dirò bene nei cieli. Ardor dei Vesuvi stempratevi i cieli, pioveta di rubi, pioveta, 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 pioveta di rubi, pioveta di rubi.
Divine suivie du déluge de l'humanité fuyant comme elle peut affolée devant la catastrophe naturelle. C'était un extrait de ce Diluvio Universale de Michelangelo Falvetti par toutes les troupes de Leonardo Garcia Larcón. Alors lorsqu'il est paru il y a une dizaine d'années ce disque, évidemment, il nous a beaucoup surpris parce qu'on connaissait pas cette musique, on connaissait pas très bien non plus Leonardo Garcia Larcón et toutes les troupes qu'il avait avec lui, une véritable découverte à ce moment-là, par exemple pour François Joubert Caillé à la viole de gambe, Margot Blanchard qui était pas loin, Thomas Dunford, tout jeune, qui était du début de cette production en concert et qui avait 10 ans de moins avec son luth. Et puis on avait ici, vous l'avez peut-être entendu aussi dans les extraits précédents, Keivan Shemirani, qui a porté ses percussions venues d'un autre monde, qui a priori n'ont absolument rien à faire dans la musique de Falvetti, et pourtant par son art d'improvisateur, cette capacité à se mêler à l'orchestre entre guillemets baroque, a porté quelque chose de quasiment universel à cette œuvre.
Thank you.
L'art de raconter des horreurs sur un ton des plus réjouissants, c'était les dernières mesures d'Il Diluvio Universale et le Déluge de Michelangelo Falvetti, chanté et joué par les membres de la Cappella Mediterranea, le chœur de chambre de Namur, tout sous la direction de Leonardo García Alarcón, disque paru aux éditions Embrunné en 2011. Il y a vu la production scénique juste quelques mois plus tôt. C'était pour aujourd'hui notre disque de légende, une merveille à podcaster, retrouver et puis collectionner en passant par notre site francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Allez, à 16h14, c'est l'heure d'une petite page de météo. Les talents lyriques Christophe Rousset, mais aussi le chœur de chambre de Namur qu'on retrouvait aussi dans cette façon d'air du froid. C'est le chœur des peuples des climats glacés, extrait d'Isis de Jean-Baptiste Lully. 1677, je précise la date parce qu'on est quand même 17 ans, si je compte bien, avant le célèbre air du génie du froid de Purcell qu'on va écouter dans un instant. Alors comment se fait-il que les compositeurs ont tellement mis en musique le froid là dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle? Ben ça, c'est Manuel Leroy Ladurie qui nous l'a appris. C'est parce que tout simplement, il y a eu, dans le XVIIe siècle, 13 grands hivers dans toute l'Europe, avec de très rudes années 1690, et une conséquence d'énormes famines qui ont marqué le monde à cette période-là. Comment on sait précisément les températures? Ben parce qu'en plus, il se trouve que c'est le XVIIe siècle qui a inventé la prise de mesure des températures. C'est né à Florence, en Italie, en 1650, invention du thermomètre à tube scellé. Première mesure de température à Paris, 1658. Donc on sait à peu près tout, même dans les détails, de cette vague de froid qui a soufflé alors sur l'Europe et qui nous a donné, entre autres, la musique de King Arthur.
Thank you.
L'air du génie du froid, extrait du King Arthur de Henry Purcell, c'était Andreas Scholl qu'on entendait ici avec l'Accademia Byzantina et Stefano Montanari. On va faire un petit coup de froid-chaud. Quand j'étais jeune, j'étais naïf, je me posais la question, mais elle n'est pas si idiote que ça en réalité. Pourquoi le concerto l'été de Vivaldi, extrait des quatre saisons, est un concerto en mineur? Pourquoi il y a des mouvements languissants dedans, entrecoupés de brusquerie, comme si tout le monde était affolé, alors que l'été, enfin, c'est chouette normalement. Il fait chaud, il fait beau, on court tout nu dans la nature, c'est le bonheur. Ben oui mon petit, mais pas en Italie. En Italie, l'été, c'est parfois caniculaire, on étouffe, il y a des incendies, et c'est justement ce qu'illustre Vivaldi dans ce concerto. Je cite, « Par la dure saison qu'attise le soleil ardent, l'homme est harassé, ainsi que les troupeaux et le pain se consument. »
Thank you.
D'un été italien manifestement insupportable. C'était le premier mouvement de l'été, extrait des Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi, l'Europa Galante, dirigé par Fabio Biondi, depuis le violon, bien sûr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Puisqu'on doit évoquer aujourd'hui toutes les facettes musicales, en tout cas de l'environnement, il est temps, je crois, de penser aux animaux. Et pour commencer, à l'un des plus petits, le moucheron. Vous allez me dire, un moucheron, il n'y a pas de quoi en faire une symphonie. Non, pas une symphonie, mais une petite pièce de clavecin, pourquoi pas.
Thank you.
Le vol tournoyant, capricieux, légèrement bourdonnant du Moucheron. C'était le Moucheron, donc, du deuxième livre des pièces de clavecin de François Couperin, joué par Carolette Cherazi. Alors, les imitations des animaux dans l'histoire de la musique, je vais pas vous faire évidemment la liste, hein. Ce n'est presque un lieu commun. Il y en a à tous les coins de rue. Des oiseaux en particulier, des poules, des coucous, des rossignols, avec toujours cette gageure. Soit l'instrument est très éloigné, comme le clavecin ici, pour décrire le vol du Moucheron, donc faut trouver des stratégies. Soit on essaie de percevoir l'instrument le plus proche possible de l'animal qu'on veut imiter pour entrer dans sa manière de parler, peut-être d'être, ou en tout cas pour retrouver l'image sonore qu'on en a. Exemple, alors là c'est du grand classique aussi, mais ça peut être fort bien fait, la flûte ou le piccolo pour cet air de Rinaldo où les oiseaux sont le symbole même du bonheur.
Thank you.
La voix de Cecilia Bartoli en Almirena, cet extrait de Rinaldo de Handel, la version Christopher Wood qui a choisi de rajouter, en plus de ses flûtes qui imitent les oiseaux, des enregistrements de oiseaux bien réels. Bah, c'est ce que permettent les techniques modernes, réinjecter en quelque sorte dans les pièces une forme de réel brut. Bah, c'est ce qu'a fait de manière plus directement consciente le compositeur finlandais Eino Rauni Rautavaara dans une pièce intitulée Cantus Arcticus. Intéressante parce que justement, lui, il a pris des chants d'oiseaux, très réels, enregistrés comme ça, certainement dans la nature, et puis a en quelque sorte composé de la musique autour, mais avec cette idée que les chants d'oiseaux sont susceptibles d'être écoutés comme une musique en soi et respectés comme tels. Ici avec les membres de l'orchestre philharmonique d'Helsinki, Leif Segerstam à la baguette, c'était un extrait de Cantus Arcticus du compositeur finlandais Eino Rauni Rautavaara.
Relax, Lionel Esparza. France Musique.
Alors pourquoi depuis 10 minutes je vous parle d'animaux? Vous allez me dire c'est un peu illustratif, tout ça un peu facile. Bah oui, mais dans l'idée de l'environnement, il y a quand même une chose importante avec l'animal, c'est qu'il y a une sorte de voie d'accès finalement à la conscience de notre environnement. Il y aurait que les végétaux, que les paysages, que le monde, les montagnes, la mer, ça serait bien. Mais ça suffirait pas. Il faut la bête, il faut son œil. Et le plus bel exemple de cette conscience, de cette prise de conscience de ce que peut être le monde animal et notre environnement en général, eh bien, c'est le final de La petite renarde rusée de Leos Janáček. Alors, il faut rappeler qu'au départ, c'est une bande dessinée dont Janáček a fait un opéra où se mêlent des humains, pas très fréquentables toujours, et puis des animaux qui sont eux-mêmes pas sans défaut, un peu trop humains. Ils parlent d'ailleurs. Le personnage central, c'est un garde-chasse, un type assez bourru qui n'hésitera pas à tuer la petite renarde. Mais enfin, en toute fin d'œuvre, il se passe quelque chose de très bouleversant, une sorte de révélation soudaine dans cette nature qu'il est supposé connaître comme sa poche, mais qu'au fond il n'a jamais vraiment regardé. Le garde-chasse soudain voit les animaux l'entourer, les arbres se mettent à frémir, et autour de lui il y a un petit museau de renarde qui voit là. Il comprend que c'est la fille de la renarde qu'il a chassée pendant toute l'œuvre. Et puis à côté de la petite renarde, il y a une petite grenouille qui arrive, qui lui dit bah, « c'est pas moi que tu as vu au tout début de l'œuvre là, c'était mon grand-père ». Et ce dont les animaux parlent au garde-chasse ici, eh bien, c'est d'un temps cyclique, non pas le temps directionnel où les choses meurent et on n'en parle plus, mais ce temps de la nature où tout est appelé à revenir. Et le garde-chasse, d'ailleurs, a un moment d'émotion. Il laisse tomber son fusil et tout s'achève dans une sorte d'apothéose panthéiste. Яко дівчатку,
Oh, my God.
Dernière mesure de la petite renarde rusée de Leos Janáček, c'était l'orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Charles Mackeras. On va finir cette émission en posant la question, peut-il y avoir une musique consciente des problèmes environnementaux? Écoutez, je ne sais pas, l'avenir nous le dira sans doute, mais il y a quand même un petit présent sous cet angle-là. Allez, un exemple, un seul parmi tant d'autres sans doute, Philip Glass avec cette pièce de 1989 intitulée Itaipu. C'est un barrage à Itaipu qui a été construit à la frontière du Brésil et du Paraguay, un ouvrage monumental qui a posé d'énormes problèmes lors de sa construction parce qu'il a été construit sans consultation publique, qu'il a imposé d'inonder un territoire absolument considérable, avec des conséquences énormes sur la vie des populations qui vivaient là. Il se trouve que Philip Glass a visité ce monument au moment où il a été construit, il en a été très impressionné. On ne sait pas vraiment s'il a été particulièrement sensible aux conséquences que tout ça pouvait avoir. Toujours est-il que cette œuvre est devenue depuis symbolique de la manière dont les compositeurs peuvent quand même, sur le vif, réagir à un certain nombre de questions qui ne sont évidemment pas immédiatement ni esthétiques ni artistiques, mais qui concernent quand même de près la vie des hommes.
Thank you.
Un extrait d'Itaipu de Philip Glass par le chœur et l'orchestre d'Atlanta sous la direction de Robert Shaw. Si vous voulez poursuivre sur la thématique environnement sur France Musique, eh bien écoutez, ce soir à 20h, il y aura un concert. Concert pour la planète qui a été donné le 4 avril 2019 à Paris à la salle Cortot et qu'on diffusera avec plein de musiciens qui se sont engagés sur ce thème. Raphaël Sévère, Karine Day, Philippe Jaroussky, Christian, Pierre Lamarca ou Edgar Moreau pour ne citer que. 20h ce soir, France Musique. Concert pour la planète. Merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin et Xavier Atto.
Napoléon, on dirait que c'est la fin.
Ben voilà Fayette, c'est la fin de la semaine, donc on part en week-end, on est bien content et on se retrouve lundi pour un nouveau relax dès 15h. Bonjour Élie Moreau.
Bonjour Lionel.
Bon anniversaire aujourd'hui, enfin pas à vous.
Pas à moi, mais bon anniversaire à la grande Martha Argerich, on lui fait sa fête dans le Van Beethoven dans quelques instants. Et bon week-end à vous Lionel.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.